être proclamé saint de l'Église catholique, le chemin est long et la procédure rigoureuse. Il y a 3 étapes principales avant la canonisation, mais la première question que nous avons posée au père Holz, un des rapporteurs de la Congrégation pour la cause des saints, est de savoir pourquoi on parle de procès de canonisation.
Le promoteur de la foi, qui était une sorte d'avocat général, où faisait les objections, ce qu'on appelait les animadversationes, et qui cherchait à montrer qu'il ne fallait pas procéder à la béatification. Si c'est un procès, c'est un procès d'un genre tout à fait particulier, mais qui a au moins du procès le fait que l'on interroge des gens de manière juridique, n'est-ce pas ?
Alors, quelles sont les conditions pour entamer une ouverture diocésaine, d'abord, de procès en béatification ?
La première condition, évidemment, il faut qu'il s'agisse de quelqu'un qui soit déjà mort. Et il faut que cette personne ait une réelle réputation de sainteté. C'est-à-dire qu'il y ait un nombre consistant de fidèles qui considèrent qu'elle est sainte d'une manière tout à fait particulière et extraordinaire, beaucoup plus que la moyenne des bons croyants. Cette réputation de sainteté se manifeste en particulier par ce que nous appelons la fama signorum, la réputation de signe, c'est-à-dire par le fait que les gens pris par l'intercession du serviteur de Dieu, se recommande à lui pour qu'il obtienne de Dieu les faveurs et les grâces qu'il désire, et affirme qu'ils ont reçu des faveurs et des grâces.
Ce terme serviteur de Dieu, il intervient à partir de quel moment ?
À partir du moment où on pense faire béatifier quelqu'un. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, évidemment.
Est-ce que, mon père, vous pouvez nous dire de A à Z les étapes, en fait, jusqu'à la canonisation ?
La première étape, c'est donc, en vertu de la réputation de sainteté, les dévots du serviteur de Dieu désirent qu'il soit béatifié et puis éventuellement canonisé. Alors, ils s'organisent, ils font une association et ils demandent à l'autorité compétente, c'est-à-dire à l'évêque du lieu où est mort le serviteur de Dieu, de commencer le processus, c'est-à-dire de commencer l'enquête diocésaine sur les vertus du serviteur de Dieu, sur sa vie, sur ses vertus, sur sa réputation de sainteté, ou bien, s'il s'agit d'un martyr, sur son martyre. Une fois que tout cela est fait, on clôt le procès, on fait une session de clôture, présidée par l'évêque. C'est la fin de la phase diocésaine, ou alors on met en 2 exemplaires les procès-verbaux des interrogatoires, le rapport de la commission historique, les rapports des censeurs théologiens et tous les documents qui ont été réunis par la commission historique. On met ça dans des caisses, qu'on ferme avec des rubans, des sceaux de cire, aux armes de l'évêque. Alors, une fois que les caisses sont fermées, scellées, l'évêque fait un décret pour nommer un coursor, ça s'appelle, quelqu'un qui les porte à Rome, et elles arrivent ici, dans notre congrégation. Et alors, on entre dans la seconde phase de l'instruction des causes, la phase romaine. Pour première chose, il faut que les acteurs nomment alors un postulateur qui habite à Rome. Alors, une fois que le procès est ouvert, nous relions les feuilles, parce que c'est en feuilles séparées, pour en faire des volumes. Si tout va bien, on fait un décret de validité. Une fois que le procès a le décret de validité, le postulateur écrit une lettre au préfet pour lui demander de nommer un rapporteur qui est chargé de diriger l'élaboration de la position, qui se compose généralement de 3 parties. D'un côté, un sommaire du procès, des interrogatoires. Ensuite, on fait une biographie documentée du serviteur de Dieu. Ensuite, on fait l'information, qui est la partie la plus importante pour la béatification. Une fois que la position est faite, on dépose la position au protocole de la congrégation et elle se met à faire la queue pour attendre d'être examinée par les consulteurs théologiens. Une fois qu'il y a le décret sur les vertus, il faut encore un miracle pour qu'on puisse procéder à la béatification. Alors que dans le cas des martyrs, il suffit du décret sur les martyrs pour qu'on puisse procéder à la béatification. Alors le miracle, le processus est le même. Quand on en arrive à l'approbation du miracle, le pape décide de faire le décret sur le miracle, et quand il y a le décret sur les vertus et le décret sur le miracle, on peut procéder à la béatification. Pour la canonisation, il faut un miracle en plus, un miracle qui se soit produit. Alors aussi bien pour les martyrs que pour les confesseurs, il faut un miracle qui ait eu lieu après la béatification.
Quels sont les critères pour dire que c'est un miracle qui dépend de cette personne béatifiée ou...
Ah ben alors, oui effectivement, comme vous dites, il y a deux problèmes dans les miracles. D'un côté, il faut s'assurer que c'est bien un miracle. Nous avons une commission de médecins qui examine du point de vue scientifique. Et puis ensuite, le miracle passe aux théologiens qui doivent, d'un côté, vérifier que les conditions pour qu'on puisse parler de miracle, tout au moins dans nos causes, sont réunies. Et surtout, s'assurer que le miracle est dû à l'intercession du serviteur de Dieu en question, parce qu'évidemment, il arrive souvent, quand on est malade, qu'on invoque tous les saints du paradis. Alors, il est bien difficile après de savoir auquel on doit sa guérison. Alors, ça, c'est les circonstances qui le montrent.
Il y en a qui passent plus vite que d'autres. On voit Sœur Lucie, Jean-Paul II...
Alors, normalement, nous suivons l'ordre chronologique des arrivées. Quand ça en arrive au stade de l'élaboration, au stade du rapporteur, au stade de l'élaboration de la position, il y a des positions qui se font plus vite que d'autres. Ça dépend de la complexité de la cause, ça dépend de la manière dont travaillent les postulateurs et les collaborateurs. Puis ensuite, une fois que c'est déposé, c'est l'ordre chronologique dans lequel les positions ont été déposées. Mais le pape peut toujours intervenir pour faire passer une position avant d'autres. Et donc, il est probable, par exemple, que quand on déposera la position de Jean-Paul II, le pape dira qu'il aimerait bien qu'elle passe avec un peu de priorité.